Imaginons un peu la situation suivante. On fait exactement ce qu'il faut, on fait preuve d'une intégrité morale absolue, on refuse de céder à la corruption, on bosse plus dur que tout le monde.
Ouais, le scénario parfait de l'employé modèle, quoi.
C'est ça. Et la récompense immédiate pour cette conduite exemplaire, mais c'est d'être jeté dans un cachot humide pour un crime qu'on n'a pas commis, en perdant absolument tout ce qu'on a mis des années à construire.
C'est la douche froide.
Vraiment. C'est pas vraiment comme ça que les histoires de réussite sont censées fonctionner, non? On a l'habitude de penser que l'effort mène au succès, comme une espèce d'équation mathématique simple.
Bah, c'est le biais classique de la pensée moderne, en fait. On cherche toujours une progression linéaire. Mais quand on se plonge dans la littérature antique, cette ligne droite vole complètement en éclats.
C'est clair.
Le succès, la survie, le pouvoir, tout ça passe souvent par des mécanismes de destruction et de reconstruction qui sont, franchement, extrêmement complexes à déchiffrer.
D'accord, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on fait une plongée analytique sur l'un des arcs narratifs les plus dramatiques de l'Antiquité, l'histoire de Joseph en Égypte.
Une histoire fascinante, oui.
Et pour ça, on s'appuie sur les notes de la session 22 du cours du docteur Kenneth Matthews, qui analyse les chapitres 39 à 41 du livre de la Genèse. L'objectif pour nous, c'est pas de faire un cours de théologie magistrale.
Non, bien sûr.
La mission, c'est de comprendre comment une série de trahisons et de fausses accusations se transforme en une leçon incroyable sur la résilience. Comment un jeune homme passe du fond d'un puits en Canaan au trône de l'Égypte.
Et pour bien comprendre comment cette ascension fonctionne, l'analyse du docteur Matthews pose les bases. Il faut vraiment observer la structure du récit, et particulièrement les thèmes de la descente et de l'élévation.
Ouais, parce que ça n'arrête pas de monter et descendre.
Exactement. Joseph, il descend géographiquement en Égypte, il descend socialement en devenant esclave, puis il descend physiquement dans une prison. Mais, et c'est crucial, la source insiste sur le fait que son succès final n'est pas seulement dû à ses compétences.
Ah oui, le fameux fil conducteur.
Voilà. Le texte répète sans cesse que « le Seigneur était avec lui », c'est ça. Le moteur de l'histoire.
D'accord. Mais avant même de voir ce moteur en action chez Joseph, le récit fait une pause hyper bizarre. C'est comme si on regardait un film sur Joseph et bam, coupure, on nous montre un épisode super sombre sur son frère aîné, Judas.
Le fameux chapitre 38.
C'est ça, ouais. Ça ressemble à une erreur de montage, non? Pourquoi on s'arrête là-dessus?
Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est une technique littéraire de contraste totalement délibérée de la part de l'auteur. Le chapitre nous raconte la chute morale honteuse de Judas.
Ah, avec l'histoire de Tamar, c'est ça?
Ouais. Pour faire court, Judas refuse de protéger sa belle-fille veuve, Tamar, selon les coutumes de l'époque. Elle se retrouve dans la misère, se déguise en prostituée, et Judas couche avec elle sans la reconnaître.
Et le pire, c'est quand il découvre qu'elle est enceinte, il veut la faire brûler vive, l'hypocrisie du gars, et enfin, c'est glaçant.
Jusqu'à ce qu'elle prouve que c'est lui le père. Et là, il est obligé d'admettre publiquement qu'elle était plus juste que lui.
Purée. La famille de Jacob, on dirait vraiment une entreprise familiale au bord de la faillite éthique.
C'est le but recherché par l'auteur. Il veut qu'on garde ce désastre moral en tête quand on passe à la scène suivante avec Joseph en Égypte.
Pour marquer le contraste, donc.
Tout à fait. Judas était un homme libre qui a cédé à ses pulsions. Joseph, lui, est vendu chez Potiphar, le capitaine des gardes. Il est ultra vulnérable. Mais il fait preuve d'une intégrité absolue.
Et une intégrité qui, selon la source, apporte une vraie bénédiction à tout le foyer de Potiphar. La source fait même le lien avec d'autres figures comme Abimélec avec Abraham ou Laban avec Jacob. Genre, la présence d'une seule personne bénit tout un écosystème.
C'est un schéma récurrent très fort, oui.
Mais attends, j'ai une question. Pourquoi la source insiste-t-elle autant sur Judas ici, alors qu'il est la lignée des rois d'Israël et que les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm deviendront les tribus puissantes du Nord?
Excellente question. C'est pour souligner la notion de grâce imméritée. Judas est choisi pour la lignée royale malgré ses échecs honteux. Et à l'inverse, ça montre que la pureté honorable de Joseph ne le protège pas des catastrophes.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que son intégrité, au lieu d'être récompensée, précipite carrément sa ruine physique.
Ouais, ironiquement, c'est le moteur de sa chute.
C'est fou! Le texte dit qu'il est bien bâti, qu'il est beau. Et la femme de Potiphar, bah, elle a des vues sur lui. Et c'est tous les jours, non?
Jour après jour, ouais. C'est du harcèlement pur et simple. Et il y a un déséquilibre de pouvoir massif. Elle est la femme du maître, lui est un esclave.
Et lui, il refuse par loyauté envers son maître et parce que ce serait un péché contre Dieu. Mais un jour, elle attrape son vêtement.
Voilà la coercition physique. Et là, Joseph ne discute plus. Il s'enfuit en courant et il lui laisse littéralement son manteau entre les mains.
Ce qui va déclencher la fausse accusation de viol. Elle utilise le terme « esclave hébreu » pour bien le rabaisser, j'imagine.
Exactement. Elle joue sur la xénophobie et le statut social pour s'assurer que son mari soit enragé. Et bim, Joseph atterrit dans la prison du roi.
Mais pragmatiquement, fuir en laissant son manteau, c'était le pire truc à faire. C'est la preuve parfaite contre lui.
Sur le coup, on pourrait se dire ça. Mais l'analyse du docteur Matthews fait le lien avec des textes ultérieurs, genre Proverbe 5 ou les conseils de l'apôtre Paul à Timothée de fuir les passions de la jeunesse.
Ah, donc fuir, c'est vu comme une preuve de sagesse.
Totalement. Face à une tentation chronique, essayer de résister sur place, c'est voué à l'échec. La sagesse pragmatique, c'est la fuite physique, même si ça te coûte cher sur le moment.
Et ça lui a coûté très cher. Au passage, il y a ce motif récurrent du vêtement qui est super triste. Ses frères lui avaient pris sa tunique ornementale tachée de sang, et là, il perd son manteau face à cette femme.
Pour finir par endosser des habits de prisonnier, oui. La descente continue.
Mais même au fond du gouffre, dans cette prison, il prospère. La faveur divine est toujours là. Il finit assistant du chef des échansons et du chef des panettiers qui ont offensé Pharaon.
Des prisonniers politiques de haut vol. Et une nuit, ils font chacun un rêve.
Et ils sont paniqués parce qu'il n'y a personne pour les interpréter. Mais Joseph attribue direct ce pouvoir à Dieu. Il dit un truc du genre « les interprétations n'appartiennent pas à Dieu ».
C'est ça. Il refuse de prendre le crédit. Les chansons racontent son rêve. Un gouas avec trois sarments. Il presse les raisins dans la coupe de Pharaon.
Et l'interprétation, c'est que dans trois jours, Pharaon relèvera sa tête, donc il retrouvera son boulot.
Voilà. Et le panettier, lui, rêve de trois corbeilles de pain sur sa tête, mangées par des oiseaux. Et là, l'interprétation est fatale. Dans trois jours, Pharaon lui enlèvera la tête. Littéralement.
Mince. Et le pire, c'est que les chansons, une fois réintégrées, ben, il oublie complètement sa promesse d'aider Joseph. Il le laisse croupir en prison.
Ouais.
Franchement, c'est le pire contact réseau de l'histoire, quoi. On l'aide à retrouver son emploi de rêve et il oublie instantanément notre existence pendant deux ans.
C'est tragique. Mais cela soulève une question importante. Le docteur Matthews explique un concept clé ici. La règle de deux.
La règle de deux?
Oui. Les rêves viennent par paires. Les deux rêves de Joseph quand il était ado, ses deux rêves-ci en prison, et bientôt, les deux rêves de Pharaon.
Ah, je vois.
Dans cette culture antique, quand un message prophétique vient en double, ça confirme que la décision vient de Dieu de manière totalement irrévocable.
Ok, donc ces deux ans d'attente prennent fin brutalement quand cette fameuse règle de deux frappe Pharaon en personne.
Exactement. Pharaon fait deux rêves terrifiants. Sept vaches grasses mangées par sept vaches maigres qui sortent du Nil. Puis sept épis de blé plein dévorés par sept épis brûlés.
Et tous les sages d'Égypte sont paumés. Et c'est là que les chansons, enfin, se souviennent de Joseph.
Alléluia, il était temps.
Ouais, carrément. Donc on sort Joseph du cachot, et là le motif du vêtement revient, non? Il se rase, il change de vêtements pour paraître devant le roi.
C'est ça, il quitte ses habits de prisonnier. Et encore une fois, face à Pharaon, il refuse de s'attribuer le mérite. Il dit « ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable ».
Une sacrée audace pour un esclave sorti de prison. Et donc il annonce 7 ans d'abondance et 7 ans de famine féroce. Mais il ne fait pas juste ça, il propose un plan d'urgence, un plan de gestion de crise.
Un plan tellement brillant que Pharaon reconnaît l'esprit de Dieu en lui et le nomme direct numéro 2 de l'Égypte.
L'élévation ultime.
Oui, et Pharaon lui donne l'anneau royal, des vêtements de fin lin, encore un changement de vêtements, et un collier d'or. Il reçoit même un nom égyptien, Tsafnat Paenea.
C'est imprononçable.
C'est vrai. Et il reçoit une épouse égyptienne, Asnat. Et là, la source souligne que c'est la fille du prêtre Don, le centre du culte du dieu soleil Ré. C'est une assimilation culturelle totale.
À ce moment-là, Joseph a 30 ans. Ça veut dire qu'il a souffert pendant 13 ans, depuis l'âge de 17 ans. Et là, il a des enfants avec Asnat, Manassé et Ephraïm.
Oui. Le docteur Matthews s'attarde sur la signification de ces noms. Manassé, en hébreu, ça ressemble à « oublier ». Joseph dit que Dieu lui a fait oublier ses peines et la maison de son père.
Et Ephraïm, c'est doublement fécond dans sa terre de souffrance.
C'est ça. Mais nommer son fils « oublier », ça souligne le risque psychologique et moral de vouloir effacer complètement un passé traumatisant.
Mais attendez une seconde. Nommer son enfant oubli, est-ce que c'est vraiment le signe d'une véritable guérison? Ou est-ce que Joseph essaie désespérément d'enterrer son traumatisme sous sa nouvelle identité égyptienne?
C'est une question très profonde. La source montre que la guérison est complexe. On ne balaye pas 13 ans de souffrance d'un revers de la main, même avec tout l'or de l'Égypte.
Surtout que ses nouvelles responsabilités sont titaniques. L'histoire personnelle de Joseph devient un événement mondial. Il amasse du grain en quantités astronomiques, genre comme le sable de la mer.
À tel point qu'ils arrêtent même de tenir les registres, ouais.
Et quand la famine frappe, la source dit qu'elle s'étend sur toute la terre, forçant le monde entier à venir en Égypte pour acheter du grain. Et c'est ce qui va amener la famille de Jacob à descendre en Égypte, pas vrai?
Exactement. Le plan divin se met en place pour réunir la famille. Mais si l'on relie cela à une perspective plus large, la source dresse un parallèle théologique fascinant. Une typologie.
Ah, dis-nous en plus.
En gros, de la même manière que Joseph nourrit le monde entier pour le sauver de la famine, la source cite la première épître de Jean, chapitre 4. Elle présente Jésus-Christ, qui est d'ailleurs un descendant d'Abraham, comme le sauveur envoyé pour délivrer toutes les nations.
Donc un acte de survie localisé finit par accomplir la promesse faite à Abraham de bénir toutes les nations. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour l'auditoire?
Eh bien, ça nous montre une structure implacable.
Ouais.
Une chute causée par l'intégrité, suivie d'une attente interminable dans l'oubli.
Et enfin, une ascension spectaculaire.
Mais le point crucial, c'est que l'humilité, le fait de donner le crédit à la source de son don, devient la clé du pouvoir ultime pour Joseph.
C'est une sacrée leçon. Dans notre quotidien, on est souvent noyé sous l'immédiateté. Mais cette histoire antique prouve que les petits détails insignifiants, un rêve, un vêtement arraché, une discussion en prison, tout ça peut s'emboîter pour changer le cours de l'histoire.
C'est exactement ça. Il faut accepter que la maîtrise des événements passe souvent par le refus de cette immédiateté.
C'est fou. Mais avant de clore cette plongée analytique, il y a une pensée qui me trotte dans la tête. En repensant à Manassé et à cette idée d'oublier le passé.
Je vous écoute.
Quand on traverse notre propre période de cachot pour finalement atteindre le succès, est-ce que les cicatrices du passé s'effacent vraiment? Ou bien est-ce cette terreur de l'oubli et de la perte qui nous pousse secrètement à tout contrôler?
C'est une vraie question.
Ouais. À stocker du bérin comme le sable de la mer, de peur que le passé ne revienne nous affamer. Voilà une réflexion que je laisse à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Prenez le temps d'y penser.
Une très belle conclusion.
Merci. Et sur ce, on se retrouve très vite pour notre prochaine exploration.